bonjour, nous nous retrouvons pour le Petit Alter Radio, une émission mensuelle proposée par Attaque Marseille, le deuxième samedi de chaque mois de 11h à midi. Attaque est une association d'éducation populaire qui a pour objectif d'informer et d'amener à réfléchir sur les phénomènes mondiaux et de montrer que d'autres solutions sont possibles. Pour interviewer nos invités pendant cette émission, je suis avec Benoît.
Bonjour. Bonjour à tous. Pour cette première émission de 2010, qui fait suite à un cycle de 3 émissions réalisées au dernier trimestre 2009, dont le sujet était le sommet de Copenhague. En effet, en octobre, nous avions présenté les enjeux de ce sommet. En novembre, les propositions pour une autre politique climatique portée par Attaque. Et en décembre, la dernière émission avait été baptisée « En direct de Copenhague » et nous avait plongé au cœur de l'événement avec des acteurs associatifs présents sur place. Aujourd'hui, nous vous proposons, après Copenhague, d'analyser et de voir comment construire l'après et poursuivre les actions déjà réalisées. Le sommet sur les changements climatiques avait cristallisé de nombreux espoirs et avait été à ce titre baptisé « Hopenhague » de l'anglais « Hope, espoir ». Mais devant la pauvreté de la déclaration finale, on serait tenté de parler plutôt d'un sommet de Flopenhague. Néanmoins, pendant cette période, un certain nombre de collectifs locaux, nationaux et internationaux se sont construits et ont fait entendre leur voix, porteurs de propositions alternatives. Avec nous pour parler de tout ça aujourd'hui, deux membres de ces collectifs présents lors du sommet. Tout d'abord, Martine Laplanche, du collectif des Amis de la Terre, et Françoise de Butler, du collectif Urgence Climatique 13, qui étaient toutes deux présentes à Copenhague. Je me tourne d'abord vers Martine Laplante,
des
Amis de la Terre. Bonjour. Vous étiez donc à Copenhague. Comment avez-vous vécu cela et comment, tout d'abord, vous êtes-vous retrouvé là-bas?
Écoutez, nous avons décidé au niveau des Amis de la Terre France, dont je suis membre du Conseil fédéral, donc d'envoyer une délégation d'environ 400 personnes avec nos partenaires sur Copenhague. Et en Limousin, nous étions 11 à partir dans le train pour Copenhague. Nous avons pensé que c'était indispensable d'être présents. Et le résultat nous l'a malheureusement prouvé, puisque nous pensions qu'il était absolument incontournable que les ONG et les différentes associations puissent peser de tout leur poids sur les négociations.
D'accord. Vous, sur place, est-ce que vous étiez au Climat Forum, donc le forum alternatif, ou bien au grand sommet officiel?
Non, au grand sommet, nous avions quelqu'un, mais qui a été exclu le 16 décembre. Avec un certain nombre d'ONG, les Amis de la Terre ont été exclus des négociations, sans doute trop radicaux et trop exigeants par rapport à ce qui s'annonçait.
Oui, on a entendu parler du fait qu'un certain nombre d'ONG avaient vu leurs accréditations retirées. Pensez-vous, d'où cela vient-il? Est-ce qu'il y a une volonté politique derrière ça de limiter le débat, ou bien est-ce que c'était une pure question sécuritaire?
C'est ce qui a été la question sécuritaire et le nombre d'accréditations d'un couac administratif ont été les motifs officiels. Mais on n'est pas dupes, hein. On est bien convaincu qu'ils craignaient le poids un peu trop fort des associations.
Et alors, vous portiez à travers l'association que vous représentez certaines propositions alternatives. Est-ce que ces propositions ont été entendues? Est-ce que vous sentiez que à l'intérieur de l'enceinte du sommet officiel, on entendait les voix qui portaient au dehors, notamment à travers la manifestation du 12 décembre et puis toute l'agitation qu'il y a eu autour du Climat Forum?
Non, malheureusement, non, bien évidemment, nous n'avons pas été entendus, puisque même ceux qui portaient des revendications raisonnables n'ont pas été entendus non plus. On nous a écoutés gentiment, sagement, hein, puisque même Nicolas Sarkozy a reçu notre président, mais c'est tout, ça s'est arrêté là.
Merci beaucoup, je me tourne vers Françoise de Butler, du collectif Urgence 13. Ma question est la même. Qu'est-ce qui vous a mené jusqu'à Copenhague et qu'est-ce qui s'est passé pour vous là-bas?
Moi, je suis allée à Copenhague en fait en tant que militante de la cause environnementale d'assez longue date en fait, et j'avais envie de participer à cet événement unique. Et en fait, l'opportunité d'y aller dans un train de 800 militants, enfin, donnait pour moi toute sa valeur à ce voyage, de rencontre d'autres ONG, et puis en fait de sentir la force d'un mouvement qui pouvait se faire entendre à Copenhague. Même si effectivement j'ai jamais cru que Copenhague en tant que tel allait apporter les réponses qui allaient sauver la planète, mais c'était vraiment pour faire entendre notre voix et la voix de tous ceux qui pensent comme moi qu'il faut urgemment changer les choses.
Et donc vous avez effectivement constater un réel engouement autour de la question climatique et un vrai mouvement social, une vraie vie autour de cette question, d'abord dans le train, puis déjà sur place à Copenhague.
Oui, tout à fait. En fait, c'est pour moi le point extrêmement positif de ce voyage, c'est en tant que militante, on se sent souvent un peu seul, surtout dans des villes comme Marseille où d'un point de vue environnemental, les choses sont souvent difficiles. Et en fait, le fait de sentir que sur ces questions-là, on peut se mobiliser, être très nombreux, déjà dans le train, mais à la manifestation du 12, pendant laquelle il y avait quand même une énergie très forte et très positive et donc c'est pas forcément ce qu'en ont retenu les médias que j'ai regardé quand je suis revenu en France après, mais finalement en participant à la manifestation, il y avait quand même une énergie extrêmement extrêmement forte sur ces questions-là, et c'est vrai que ça fait du bien, quoi. Voilà,
parlons de cette manifestation du 12. Oui, il y avait effectivement beaucoup de monde dans la rue, et quelle était l'ambiance dans le cortège?
Très festive en fait, très gaie, très joyeuse, très mélangée. En fait, il y avait beaucoup d'organisations environnementales d'abord, mais aussi effectivement des mouvements sociaux, quelques syndicats, et puis pas mal de Danois, de familles danoises qui venaient avec leurs enfants, leurs bébés. Enfin, c'était très mélangé et très... Et de ce fait, très gai, quoi. Enfin, voilà, c'est... plein d'énergie.
C'est pas l'image que nous a donné la télévision, où on voyait quand même une répression qui était importante. Je veux dire, vous avez bien vécu ce moment de convivialité.
Tout à fait, oui. On a eu vent à un moment ou l'autre d'effectivement de débordements qui pouvaient avoir lieu du fait de l'intervention de quelques personnes, mais bon, c'est pas du tout ce qu'on a vécu, et je pense que effectivement le succès de la manifestation a pas du tout été reflété dans les médias nationaux, enfin en France en tout cas.
Ce ressenti, les débordements qu'il y a pu y avoir, on les a appris en rentrant après au Climate Forum, donc on les a même pas vus.
D'accord. Donc vous allez, ça fait plaisir à entendre, vous allez à l'encontre de l'image médiatique d'un mouvement alternatif qui ne serait pas constructif, au contraire, on voit qu'il y a une énergie très constructive qui se crée autour de cette question-là. Est-ce que les propositions portées par les Amis de la Terre ont participé à l'élaboration de la déclaration du Climat Forum, Martine ?
Oui, tout à fait. Nous avons largement participé. Ce sont les réclamations qu'on porte déjà depuis un certain temps, avec maintenant toutes les associations présentes dans le collectif Climate Justice Now, qu'on appelle en français Urgence Climatique Justice Sociale. Notamment arrêter les fossiles, réduire les gaspillages, modifier complètement les questions financières sur les compensations carbone, arrêter les compensations carbone complètement et permettre à chacun de vivre décemment, quel que soit son pays d'origine, dans tous les pays du monde.
D'accord.
Donc, ce sont les grands thèmes portés par l'ensemble du collectif.
parler des pays du monde, est-ce que vous avez vu beaucoup de représentants extra-européens de la société civile, enfin des mouvements sociaux à Copenhague ?
Quelques-uns. Nous avons rencontré, au niveau des Amis de la Terre en tout cas, nous avons rencontré avec plaisir une délégation qui venait de Corée du Sud. Ils étaient 21 quand même, hein, à avoir fait le déplacement. Des délégations africaines et des délégations aussi d'Amérique centrale.
Et le collectif 13 a pu se placer dans cette démarche et participer à ces réunions, à ces échanges ?
À Copenhague même ?
Oui.
Non, enfin, bon, nous, on était avec les organisations environnementales sur place. Après, on était. Enfin, oui, j'étais membre du collectif 13, mais en fait, voilà, mon intervention, c'était de participer à la manifestation. Et c'est vrai que moi, le point extrêmement positif que j'y vois quand même, c'est effectivement la convergence des intérêts environnementaux et sociaux qui ont vraiment émergé, enfin qui voilà, la manifestation était vraiment sous ce signe-là et voilà, et j'avais envie de dire il était temps parce que c'est vrai que l'un ne va pas sans l'autre et que les deux éléments doivent être portés ensemble et voilà.
Oui, puis pendant que vous étiez à Copenhague, il y a toute une série de manifestations en France, qui se sont déroulés,
oui,
qui ont pu faire le relais,
oui,
justement, pour montrer que les gens qui étaient restés dans leur pays d'origine étaient conscients de tous ces problèmes-là.
Oui.
Nous avons aussi organisé, les collectifs ont organisé des manifestations importantes le 5 décembre, qui ont été aussi des grands moments où on a pu se retrouver tous ensemble. Et je voudrais insister effectivement sur ce que vient de dire Françoise, le point fort de Copenhague qui restera, hein, et sur lequel nous allons travailler, c'est la convergence effectivement des mouvements environnementaux et sociaux. Je suis par ailleurs membre d'ATTAC également, hein, et nous, tout ce que nous organisons autour du climat, nous l'organisons ensemble dans notre région.
On va maintenant. Je voulais revenir un petit peu sur le fait que vous disiez que l'accréditation des Amis de la Terre avait été retirée. Qu'est-ce qu'il a été possible de faire sans accréditation auprès du sommet officiel par les Amis de la Terre après cette date funeste ?
À partir du moment où il n'y a plus d'accréditation, on a été très limité, effectivement. Donc chaque pays a essayé de re-rencontrer les officiels qu'il rencontrait avant le sommet. Mais bon, il ne s'est plus passé grand-chose, hein, faut le reconnaître.
D'accord. Mais donc ça signifie qu'il y a vraiment une volonté de la part des représentants officiels d'enlever une possibilité d'action aux mouvements sociaux.
Oui, oui, ça j'en suis convaincue. Je suis absolument convaincue que les pays qui ont fait tant de communication, hein, enfin les gouvernants, hein, qui ont fait tant de communication sur l'avant Copenhague, n'avaient absolument pas l'intention d'arriver à un accord contraignant pour eux. Et on a bien vu la division qui s'est produite et les intérêts de chacun sont revenus sur le devant de la scène et ont laissé l'intérêt collectif bien loin derrière.
Il y a eu un verrouillage complet, un verrouillage au niveau des discussions, un verrouillage de la voix des gens qui venaient contester et apporter d'autres réponses et qui ont bloqué complètement les discussions dans cette mascarade.
Oui, oui, tout à fait. Nous, aux Amis de la Terre, nous avons eu la chance de n'avoir aucune arrestation, mais toutes les grandes organisations sociales, plus d'ailleurs qu'environnementales, ont eu droit à des arrestations, hein, qui ont déstabilisé les mouvements.
D'accord. Cette répression policière était donc vraiment perceptible sur place comme par tous les participants.
Oui, 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 absolument, oui.
Et bon, il est maintenant temps de faire une pause dans cette petite émission. Nous, on se retrouve après un petit peu de musique.
Open your mind and see, my friend, the truth behind the rules. because we are living in a shed ever since 1492.
Nous voilà de retour dans le Petit Alter Radio, l'émission de Attaque Marseille sur Radio Grenouille, avec Martine Laplante au téléphone du collectif des Amis de la Terre et Françoise de Butler du collectif Urgence 13. Françoise de Butler, cet accord qui a été amené à la fin du sommet n'est pas vraiment un accord puisqu'il n'a même pas de portée juridique, même pas, il n'est même pas contraignant.
Non, il n'est pas contraignant. Après, c'est vrai que l'analyse à chaud de cette décision, de cette conclusion du sommet de Copenhague a laissé entendre beaucoup d'avis négatifs. Et bon, moi, qui me suis amenée à me poser la question, effectivement, mais en fait, qu'est-ce qu'on attendait, qu'est-ce qu'on pouvait attendre de ce sommet. Effectivement, d'un point de vue idéal, on aurait souhaité qu'il y ait un accord contraignant qui corresponde aux indications du GIEC pour limiter les températures. Je pense que la décision qui a été prise, en fait, reflète assez bien le rapport de force et l'incompatibilité, en fait, qui peut exister entre les contraintes climatiques et le mode de développement qu'on a aujourd'hui et sur lequel il faudrait sérieusement s'interroger pour arriver à rentrer dans les clous climatiques, quoi. Et tant qu'on n'aborde pas cette question de front d'un point de vue politique, on pourra faire toutes les déclarations d'intention qu'on voudra. Si on soutient l'industrie automobile d'un côté, on peut pas de l'autre côté rentrer dans les clous des contraintes climatiques. Donc voilà, c'est en fait à défaut d'être contraignante, cette décision est assez cohérente avec l'état du monde tel qu'il est aujourd'hui et avec l'absence aujourd'hui de remise en cause du modèle de développement.
Alors cette déclaration d'intention, ça ne reste qu'une déclaration d'intention. Qu'en est-il réellement en fait? Il y a pour début 2010, les pays signataires doivent émettre des intentions de réduction d'émissions, c'est ça? Et puis peut-être on trouvera un accord réel contraignant à Mexico. C'est tout ce qui ressort de la déclaration.
Bah oui, d'après ce que je sais, en fait, c'est vrai qu'ils ont jusqu'à la fin du mois pour faire part de leurs engagements en matière de réduction. La prochaine échéance, c'est la conférence de Mexico. Voilà, je sais pas. Je pense que la mobilisation. Je sais pas. On verra. Les choses sont encore un peu récentes pour savoir comment les choses vont se passer d'un point de vue. La mobilisation qu'il pourra y avoir à ce niveau-là.
La réelle politique l'a emporté sur les bonnes intentions climatiques. C'est-à-dire que les enjeux économiques sont tels qu'on a fait passer le climat et l'avenir de la Terre en deuxième temps, quoi.
Mais comme on le fait tous les jours, en fait, hein, je veux dire, voilà, c'est comme ça. Je veux dire, on peut prendre l'exemple de la taxe carbone qui vient d'être retoquée par le Conseil constitutionnel. Et en fait, la taxe carbone, c'était cette façade-là de vouloir faire croire qu'on allait régler un problème. Alors que étaient exonérées les entreprises qui produisent en fait 93% des émissions de CO2. Donc je veux dire voilà, on est en plein dans cette incohérence et qui peut même nous toucher nous en fait. Hein, je veux dire qui aujourd'hui est prêt à est-ce que déjà tout un chacun connaît les conséquences pratiques qu'aurait pour lui l'application de mesures sérieuses concernant le climat et serait prêt à les appliquer aujourd'hui. Je veux dire, il faudrait aussi pouvoir dire aux gens, voilà, si aujourd'hui on appliquait ce que le GIEC préconise, voilà quelles conséquences pratiques aujourd'hui ça aurait au quotidien. Mais ça, c'est très peu fait, c'est pas fait. Et du coup, on peut rester sur des discours théoriques où il faut réduire de temps, mais voilà.
Il en demeure pas moins que s'il y avait une vraie politique internationale, une vraie volonté politique internationale mise en œuvre dans le cadre de l'ONU, on pourrait avoir un moyen de pression pour justement changer ce quotidien pour chacun, changer l'industrie, etc. Est-ce que finalement, c'est pas au niveau politique, il y a une absence complète de volonté de changement? Est-ce que c'est pas un peu ce que vous avez senti, Martine, à Copenhague?
Le problème qui se trouve, qu'on rencontre au niveau de l'ONU, c'est qu'on l'a vu déjà dès les accords de Kyoto, c'est qu'il n'existe pas. L'ONU n'a pas le pouvoir d'imposer les choses de façon extrêmement contraignante. Kyoto, c'était des prises de décisions soi-disant fermes, et on a vu les dérives qu'il y a eu derrière. Hein. Ça n'a pas été appliqué en grande partie. Il nous manque actuellement une instance internationale qui ait vraiment un pouvoir coercitif sur les nations. on est dans le conflit là, je ne fais pas de droit international ou très peu, mais la souveraineté, le problème entre la souveraineté des États et le pouvoir des instances internationales. Donc tant qu'il n'y aura pas de volonté des États de renier une partie de leur souveraineté au profit des instances internationales et de l'intérêt général, on n'arrivera pas à avancer. En réalité, on restera sur des déclarations d'intention.
Mais est-ce qu'on peut vraiment penser que c'est le rôle des représentants politiques des grandes nations que de faire primer l'intérêt général? Est-ce que c'est pas finalement des lobbies de grandes industries qui sont derrière tout ça et qui travaillent doucement à faire passer leurs intérêts d'abord?
En l'état actuel des choses, effectivement, c'est ce qu'on constate. Notre combat consiste justement à essayer de faire nous-mêmes un lobby qui prenne autant de force, voire plus que les lobbies de l'industrie et qui nous poussent à la consommation.
Et puis les grandes puissances économiques sont celles qui sont le moins touchées par le phénomène climatique, tout au moins qui ont le plus de possibilités pour s'adapter et résister à ces changements. Donc elles n'ont pas un intérêt immédiat à bousculer la donne, puisque je veux dire, elles risquent économiquement de plus y perdre que d'y gagner. Quoi.
Dans le média, oui. À moyen terme, les pays riches seront rattrapés aussi, je pense, par les conséquences du changement climatique. Et bon, et puis cette question-là, effectivement, de la proximité du risque pour certains pays rentre tout à fait dans le cadre des exigences de justice climatique qui ont été portées lors du sommet de Copenhague.
C'est ça qui est nouveau et qui est très important. Hein. Ce concept de justice climatique apparaît pour la première fois sur la scène internationale et est porté, et c'est ce qui a amené d'ailleurs justement au rassemblement des mouvements environnementalistes et sociaux.
Oui, on voit l'émergence de nouvelles forces, en tout cas de forces de proposition par les pays qui risquent d'être le plus immédiatement touchés, par exemple, mais aussi la volonté de grands pays comme la Chine et l'Inde qui s'expriment et qui n'est pas toujours en phase avec, d'une part, les pays les plus pauvres, ni les pays occidentalisés les plus développés, etc.
Et oui, c'est la grande difficulté des pays émergents qui veulent arriver à un développement comparable au nôtre et qui se retrouvent en situation de très grands pollueurs actuellement. En plus, ce sont des pays qui ont une population qui fait que effectivement, ils ne peuvent qu'être extrêmement pollueurs.
Là, on parle donc de la Chine et de l'Inde là, comme pays extrêmement pollueurs et encore plus probablement à l'avenir, mais ça amène la question de la dette climatique. La dette de pollution, est-ce que cette notion rentre un petit peu dans les mentalités des grands décideurs internationaux?
À mon sens, pas encore. On en est encore à parler du remboursement de la dette des pays pauvres, alors que si on met leur dette plus la nôtre, finalement c'est eux qui doivent recevoir le plus.
Oui. Oui.
Sur la question juste de la Chine, par exemple, il faut quand même rappeler que par tête d'habitant, un Chinois pollue quand même encore 5 à 7 fois moins qu'un Occidental. Donc quand on parle de plus grands pollueurs de la planète, c'est pas par personne. Et il pollue aussi énormément parce que on a délocalisé nos industries les plus polluantes et qu'on fait fabriquer chez eux des produits qui sont consommés chez nous. Donc voilà, il faut aussi remettre ça en place et d'avoir bien en tête quand on dit toujours que la Chine est devenue le premier pollueur du monde. Voilà,
Oui, il pollue par le nombre, quoi. Mais enfin, par tête d'habitant, comme vous le dites,
voilà,
justement,
c'est
ridicule. Notamment l'Inde, c'est ridicule. En plus, un mode de vie, un mode de consommation avec très peu d'alimentation carnée font qu'ils sont absolument pas concernés par ces problèmes-là à l'échelle individuelle.
Sauf que leur rêve de développement est d'avoir notre mode de consommation, y compris en consommation de viande. Et voilà, et en fait, toutes ces questions-là, effectivement... sont effectivement extrêmement difficiles à trancher aujourd'hui parce que, pour faire prendre conscience à l'humanité avec toute sa diversité et de l'importance des enjeux, c'est pas évident.
Alors, cette importance des enjeux, ça nous rappelle le slogan, le mot d'ordre du collectif Urgence Climatique, qui était de changer le système et non pas changer le climat. Est-ce que cette idée-là commence-t-elle à un petit peu se diffuser dans les instances décideurs, Madame Laplante?
Oui, on commence à parler de transformation radicale, par exemple de l'Organisation mondiale du commerce. En fixant des règles commerciales qui tiendraient compte des excès d'émissions de gaz à effet de serre et des consommations tout à fait inutiles, quoi. Mais c'est pas gagné, c'est en route.
Et puis après, sur le changement de système en profondeur, qui ferait effectivement que ceux qui prennent les décideurs politiques soient moins influencés peut-être par les lobbies économiques. Pour l'instant, on n'en est pas là, on en est loin. Voilà. Donc là, c'est vraiment une question politique et de société, enfin, qui doit être résolue. Hein,
Et est-ce que c'est pas là où interviennent les mouvements sociaux et toute la mobilisation populaire autour de cette question pour faire pression justement sur toutes ces instances de décisionnaires?
Oui, parce qu'on s'aperçoit aussi que, il y a un problème. Un problème humain qui est général et qui va même au-delà du problème climatique. On a des problèmes qui sont empirés par le fait que les pays les plus pauvres, les moins adaptés, ont le moins de possibilités de se défendre, de s'adapter au changement climatique que l'on vit. Et on en est l'exemple sur le Togo, sur d'autres pays, qui sont vraiment très démunis face à ces situations-là.
Oui, bien sûr. Tout ça est lié aussi à la question de la dette climatique, etc., qui demande une grande prise de conscience. Moi, je voudrais revenir sur l'idée des mouvements sociaux et la mobilisation populaire. Est-ce que c'est justement pas à l'avenir ce genre de levier qui risque de nous, qui peut, pardon, nous aider à avancer? Martine de la Planche, est-ce que vous pensez que il faut continuer ce combat populaire et que c'est de là dont sortira des alternatives?
Oui, on a l'exemple des forums sociaux qui commencent à se faire sérieusement entendre. Donc je pense que sur les aspects climatiques, qu'il va falloir relier de toute façon maintenant de façon très nette avec tous les aspects économiques. Bien évidemment, nous on en est convaincus, mais tout le monde n'en est pas encore convaincu. C'est un même combat qui est mené sur les deux fronts.
D'accord. Et pour rendre plus efficace ce combat, il faut continuer à fédérer tous les mouvements qui œuvrent dans ce sens-là. C'est un petit peu la vocation du collectif Urgence Climatique. Comment est-ce que vous voyez l'avenir de ce collectif-là? Par rapport à Mexico, à la prochaine étape qui est Mexico, par rapport aux prochaines mobilisations.
Il y a bonne au mois de juillet aussi en intermédiaire. Voilà, en intermédiaire. Donc je pense qu'il va falloir effectivement qu'on reste présent, qu'on reste mobilisé, qu'on reste très en contact et qu'on continue à travailler ensemble. Et on essaye aussi, moi je fais partie donc des Amis de la Terre Limousin, on essaye aussi, et là c'est très très difficile, d'unir tous les mouvements au niveau local. On a beaucoup de mal à faire travailler les syndicats si on n'amène pas un aspect économique avec.
Mais peut-être est-ce que c'est le propre de cette crise climatique que justement de toucher tous les aspects de notre vie en commun, aussi bien sociaux que économiques, que politiques? Et c'est là où elle prend toute son importance, justement, cette crise.
Et je crois que c'est pas par hasard que les grands médias dissocient la crise financière de la crise écologique, de la crise qu'il y a eu sur les céréales il y a 2 ans, alors qu'effectivement, c'est tout lié.
Et c'est précisément le point sur lequel insiste le collectif Urgence Climatique, Justice Sociale.
Oui, oui, oui.
D'accord. Bien, Nous en venons au terme de cette deuxième partie de l'émission. Après la pause musicale, nous aurons au téléphone Christophe Aguiton du comité scientifique d'Attaque qui exposera un petit peu la réaction de l'Attaque face à la déclaration finale du sommet de Copenhague. A tout de suite.
Este es un tiempo propicio para la modestia. Como sol da luz al día, fuerza y claridad se manifiesta. No importa la altitud, época del año. Cambiamos monedas en binomio, en cada día otro engaño. Piel roja, tinta negra, papel blanco. Traigo el pasado presente y al visto unidades hago. Intuiciones, adivinaciones, bola de cristales. Pide efímera, conviviendo con todos los males. Ruidos a calle, está en mi jerga, mi lengua se hablan. Mis bocas se escupen fuego, mi loro que pincha manda sonoras por la ventana. No hay calé, no hay virgen, no hay parque, no hay peso, no hay pasta, no hay nada. Ya no sigas echando cuentas. Ese tarde el durillo y más leyendas. No solo importa tu nevera y pagar letras. Así no, ni respiro, ni descanso, relajo, tregua. Sigue, sigue, menos derecho y más tuerca. Con sol no reconforta. Y el cuchillo con el euro pasa cuenta. Como una balada amarga invadiendo la taberna. Y el confort no reconforta. Y a costa de que sudores llenan cuenta. Tanto si nos tropezando.
Poca luz de la farola de aquel muro. Frena, hace tiempo que está escrito. La comunidad le brita el más fuerte de los vivos. Sorpresa, un sonido que te somete. Se te mete la mente latente, ambiente envolvente. Desde la calle para la gente, vente, vente. Aquí quien no siente, miente evidentemente. Puede que nunca te hubiera dado cuenta que a cámara lenta siempre se ve. Imagínate, incorpórate, acéptalo. Es hora de caminar y poner la mirada de frente hacia un camino diferente, gente.
El confort no reconforta. Y el cuchillo por el euro pasa a cuenta. Como una balada amarga invadiendo la taberna. Y el confort no reconforta. Y a costa de que sudores llenan cuenta. Tantos siglos tropezando. Siempre con la misma piedra.
Derechos humanos mueren día a día calladamente. Personas sin papeles no ven salida a su vida legalmente. Inmigrantes encerrados en las iglesias en huelga de hambre. Dios no existe, por impago le han cortado el cable. Mega macro multinacionales, multipoderosas, multideprimentes, multicapitales, multipatriarcales, multisiderales, multicoloniales, multimilitares, multiplotadoras, multidictadoras, multimiserables, multipoliciales. Almas hasta dientes.
Cultura barata, cubierta, plata, mata y ata. Amas exactas, sombras inmediatas, llena miradas de basta, basta. Hasta cuando cultura nefasta, aplasta y en el metro y en tu casa. Manza la codia y te manipula y cansa la esperanza.
Hasta cuando frontera con muertos de los dos lados. Esto impone, descompone, vale más la bala blanca que la vida negra dentro del mercado.
Si esto no es justo, revuelta y cambia impulso. Sistema desengancho, descompongo y desajusto.
Naces, andas, ves, mueres, usa codiente, explícate. Cuando uno va, uno viene, se repite la misma incesante.
Vaya disgusto, consumo, consumo, consume a gusto. Confort no reconforta. Y el cuchillo por el euro pasa a cuenta. Como una balada amarga invadiendo la taberna. Y el confort no reconforta. Y a costa de que sudores llenan cuenta. Tantos siglos tropezando. Siempre con la misma piedra.
Oui, de retour donc dans la troisième partie du Petit Alter Radio. Nous avons en ligne Christophe Aguiton, membre du conseil scientifique de Attaque. Christophe Aguiton, bonjour.
Bonjour.
Bonjour, nous vous avons appelé pour connaître un petit peu la réaction de Attaque face à la déclaration finale du sommet de Copenhague. Qu'est-ce que vous concluez après à la lecture de cette déclaration finale de la conférence des parties ?
Mais écoutez, il y a deux niveaux de réponse. Hein. Le premier porte sur votre question précise. Il est clair que cet accord est à des années-lumière de ce que voulaient tant les mouvements présents, les environnementalistes comme les mouvements sociaux, que les pays qui risquent d'être les premières victimes du réchauffement climatique, les îles du Pacifique qui sont menacées d'être submergées, les régions dont les zones côtières sont très fragiles comme le Bangladesh, les régions montagneuses comme le Tibet ou la Bolivie, bref, toutes ces parties prenantes aux négociations, qu'elles soient, je vous dis, ONG ou certains États, avaient des exigences très fortes qui étaient d'en rester au moins aux recommandations du GIEC, et au-delà de ça, trouver des financements pour permettre aux pays du Sud à la fois de s'adapter au processus inéluctable de réchauffement, même si on reste dans la limite de 2 degrés, et puis aussi d'avoir les moyens eux-mêmes de rentrer dans un cycle plus vertueux d'une économie qui ne soit pas basée sur les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est évidemment, c'est le premier niveau de ma réponse, une grosse déception, et même plus que ça, je crois qu'on est tous furieux de ce qui s'est passé, et convaincus maintenant qu'il va falloir se mobiliser pour qu'à Mexico et dans les étapes ultérieures, on n'arrive pas à ce type de gâchis. C'est ma première réponse. Hein. Bon. Si on veut toujours en rester sur l'analyse de ce qui s'est passé à Copenhague, la raison de cet échec est d'abord à mettre sur le dos des pays riches et surtout des États-Unis d'Amérique qui ne voulaient en rien entendre d'un accord contraignant qui puisse les obliger à prendre des mesures sous le risque de sanctions internationales. Et puis aussi, il faut bien le dire, d'un accord qu'ont passé les États-Unis avec la Chine qui, elle, ne voulait pas avoir de mécanisme de vérification sur son territoire. Et donc c'est une espèce d'accord entre les deux compères qui a abouti à ce résultat-là, mais avec la bénédiction des pays riches, à commencer par le Japon et les États-Unis et l'Union européenne. Voilà un peu pour le paysage. Alors maintenant, j'ai un deuxième niveau de réponse qui est très différent, lui. C'est quand on regarde du point de vue des mouvements sociaux ou des environnementalistes, il y a vraiment un saut qui a été accompli à Copenhague. Copenhague, si on voulait faire une petite comparaison, c'est un petit peu comme Seattle au niveau au moins de la façon dont les choses sont passées du point de vue des mouvements. Seattle, vous vous rappelez, c'est il y a juste 10 ans, cette petite ville du nord-ouest américain, où l'OMC tenait, l'Organisation mondiale du commerce, tenait sa conférence. Et tout un mouvement de jeunes a été capable de bloquer cette conférence, et en lien avec des mouvements paysans, des mouvements environnementalistes, et même quelques forces syndicales, ont lancé en fait ce qui est devenu le mouvement intermondialiste qu'on a connu par les forums sociaux, par des organisations ou des associations comme ATTAC. À Copenhague, on a eu un peu la même chose. Le terrain environnemental était occupé strictement par des ONG depuis Rio en 92, la grande conférence de Rio, qui est la première à avoir mis la question du climat en tête des agendas. Et ces ONG, que ce soit Greenpeace, WWF, les Amis de la Terre, ont fait du bon travail de sensibilisation, un travail vraiment très utile, mais qui était fait réellement dans un esprit ONG, c'est-à-dire que les gens pouvaient contribuer financièrement, mais c'était quand même quelque chose qui était fait par des spécialistes sans que les mouvements sociaux y soient réellement impliqués. À Copenhague, ce qui s'est passé, c'est 2 choses nouvelles, exactement comme à Seattle. La première, c'est l'arrivée de mouvements sociaux dans le processus. Il y a Campesina qui représente les petits paysans en France, la Confédération Paysanne, mais il y en a beaucoup d'autres, évidemment, de par le monde. Ils sont plus de 60 millions d'adhérents, des associations comme ATTAC, et le début du mouvement syndical qui commence à s'impliquer, ce qui est une très bonne chose dans ces négociations. Et puis, et c'est ça qui a été vraiment déterminant à Copenhague, l'arrivée aussi d'une mobilisation dans la jeunesse, comme à Seattle il y a 10 ans. On sent qu'il y a une génération militante qui va s'impliquer d'abord sur les questions climatiques, mais pas d'un point de vue purement environnementaliste, mais de ce qu'on appelle en anglais, mais c'est le terme un peu consacré, climate justice, qui est l'idée d'une justice climatique. En français, ça ne veut pas dire grand-chose, mais qui est l'idée, en gros, qui font lier les questions sociales et les questions environnementales.
D'accord. Vous parlez de mouvements sociaux. On a, par ailleurs, il y a eu une déclaration des peuples qui a été écrite, à laquelle a participé ATTAC. Cette déclaration des peuples a été lue dans l'enceinte de l'ONU. Est-ce qu'on peut penser que ça peut servir de base pour l'avenir, pour construire de nouvelles propositions, un nouvel accord climatique après Copenhague, qui en soi était décevant ?
Écoutez, nous l'espérons, évidemment. On n'en est quand même pas là, malheureusement. C'est-à-dire qu'il y a aujourd'hui une série de mouvements sociaux qui sont très critiques sur des dispositifs qui viennent, y compris de Kyoto, donc de la conférence de 97 au Japon, qui a mis en place en fait les premières mesures contraignantes sur le climat, mais qui l'ont fait en accompagnant le mécanisme de marché que nous estimons, nous, très dangereux, parce qu'il risque d'être victime de bulles, comme nous l'avons vu sur la bulle bancaire et auparavant sur la bulle informatique en 2000. Et puis, en plus, qu'un côté extrêmement plus que dérangeant, choquant, y compris sur le plan moral, puisque le principe de ces mécanismes financiers, c'est que dans un pays riche comme la France, les États-Unis ou le Japon, vous pouvez ne pas réduire vos émissions de gaz à effet de serre si, en échange, entre guillemets, vous achetez quelques dizaines d'hectares de forêt ou dizaines de kilomètres carrés de forêt au Sahel, en Amérique du Sud ou ailleurs. C'est un moyen, en fait, de se défausser sur les pays pauvres en versant, saupoudrant un peu d'argent pour se débarrasser du problème. Donc ça, nous sommes vraiment très contre. Et la déclaration des peuples auxquelles vous faites référence, comme toutes les autres déclarations qui ont eu lieu de la part des mouvements sociaux à Copenhague, puisqu'il y en a eu plusieurs, il y a eu aussi celle de Climate Justice Now, aussi cette grande coalition qui regroupe donc les acteurs sociaux et environnementaux comme ATAC, Via Campesina ou les Amis de la Terre. Et tous sont en réel désaccord, en désaccord total avec ce type de mécanisme. Bon, ça, on n'est pas encore en situation de l'imposer ou de le faire comprendre au niveau des Nations Unies. On a un accord avec un certain nombre de pays, mais assez limité. Je pense à la Bolivie, je pense à l'Équateur, au Paraguay. Mais c'est un nombre de pays aujourd'hui encore limité. Ce qu'on espère, c'est que l'évolution des mentalités et le poids de l'opinion publique et surtout la mobilisation des mouvements vont permettre de changer la donne et de permettre que toutes ces revendications-là soient mieux entendues lors des prochaines négociations.
Donc il y a d'un côté une volonté de financiarisation du problème climatique, d'un autre côté une grande mobilisation populaire avec des mouvements sociaux, etc. Et du point de vue de ATAC, quelles sont les propositions et les actions à venir que vous avancez pour faire justement avancer le débat autour des questions climatiques ?
Pour le vraiment le résumer, hein, notre première idée pour nous va de soi, c'est d'abord de respecter au moins le niveau de recommandation du GIEC, hein, qui estime qu'on ne peut pas aller au-delà de 2 degrés d'augmentation de la température moyenne sur le globe. Donc ça impose toute une série de mesures de réduction de gaz à effet de serre, en particulier pour les pays les plus émetteurs et ceux qui sont historiquement responsables de ces émissions, donc les pays du Nord. Hein, bon, et ce qui veut dire, pour donner les chiffres fixés par le GIEC, 80% de réduction à l'horizon de 2020 et plus de 30% à l'horizon de 2050, pardon, et plus de 30% à l'horizon de 2020. Tout ça par rapport à l'année 1990. Ça, c'est le premier niveau qui fait accord, en fait, entre toutes les ONG et tous les mouvements. Après, il y a des questions plus précises qui sont portées par Climate Justice Now et par ATAC, qui est d'abord l'idée qu'il y a une responsabilité historique particulière des pays du Nord, ce qui fait que ce sont eux qui doivent pouvoir porter, qui doivent devoir porter l'essentiel du fardeau, et en même temps de trouver des financements pour les pays du Sud. Donc, il y a toute une campagne pour que des financements soient trouvés à un niveau suffisant pour les pays du Sud, et il y a aussi l'idée que cette manne financière, qui n'est pas aujourd'hui malheureusement encore trouvé, doit pouvoir être géré par des fonds contrôlés par l'ONU et surtout pas par la Banque mondiale et le FMI, dont on connaît les actions négatives ces dernières 10 ou 15 années à propos des crises financières ou d'une crise comme la crise argentine. Bon, ça c'est le premier, c'est le deuxième niveau. Troisième niveau enfin, c'est évidemment le refus des mécanismes de marché, ce qu'on appelle nous des réductions de gaz à effet de serre sans offset. Offset, c'est ce terme technique qui permet à des pays comme ceux du Nord de se débarrasser du problème sur les pays du Sud. Donc nous on veut que les réductions soient réelles, effectives, pays par pays. Voilà en résumé quelles sont les grandes revendications d'ATAC.
On doit toujours faire confiance à l'ONU malgré qu'il ait été décrié à propos de cette réunion, de ce sommet de Copenhague.
Écoutez, l'ONU a des tas de défauts, hein, il ne s'agit pas du tout de mythifier ce modèle, mais ce qui nous est proposé en échange, hein, je pense à ce que Nicolas Sarkozy ou autre avant, qui est l'idée d'une gouvernance basée sur le G8 ou le G20, est pire, hein, puisqu'en fait, l'accord très négatif qu'on a eu n'est pas un accord qui vient de l'ONU. Hein. C'est un accord qui a été discuté à 2, Chine et États-Unis, conclu à 5, en y rajoutant le Brésil, l'Inde et l'Afrique du Sud, et avalisé à 28 avec l'Europe et les États-Unis. Donc c'est une sorte de G20 élargi qui a pondu ce texte que nous refusons radicalement, et pas du tout l'ONU. Donc l'ONU a des tas de défauts, hein, je pense qu'il faut largement la réformer, il faut une discussion très ouverte sur ces questions-là, mais aujourd'hui c'est quand même mieux que ce qu'on nous propose en échange. Voilà, écoutez, je dois vous laisser, Oui.
D'accord, très bien. Merci beaucoup, Christophe Aguiton. Merci beaucoup pour votre intervention.
Merci d'avoir invité et très content d'avoir pu participer à votre émission. Et puis j'espère à bientôt.
À bientôt. Merci beaucoup.
Au revoir.
Au revoir.
Bien, Christian, donc après cette intervention de Christophe au niveau national, voire international, c'est compte rendu des événements de Copenhague. Quels sont l'agenda local pour quels sont les événements à annoncer?
Oui, disons, alors, ce qu'on peut citer, c'est que le collectif Urgence climatique, justice sociale aura une réunion le 6 février à Paris. Et au niveau du collectif Urgence climat 13, une réunion de bilan se déroulera en fin janvier. La date n'est pas encore précisée, mais on devrait arriver à trouver une réunion pour faire ce bilan. Ce que l'on peut dire aussi, c'est que vous retrouverez sur le site d'ATAC un certain nombre de sites qui ont servi à monter cette émission et qui vous permettront de mieux appréhender la connaissance des phénomènes. Et nous sommes aussi en relation avec Radio Grenouille pour mettre par lien sur le petit alter radio de Radio Grenouille, de mettre l'émission une fois qu'elle a été enregistrée.
D'accord. Merci Christian. Donc c'est la fin de cette émission. On remercie tous les intervenants. N'oubliez pas de consulter tous les liens donc, sur le site internet de Attaque Locale. Merci encore à Radio Grenouille et aux intervenants. On se donne rendez-vous le mois prochain pour un nouveau petit Alter Radio.